signe, tu regardes s'il y a.
Quoi ? On va voir s'il est prêt. C'est bon ? Oui, c'est bon.
Ok. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Bienvenue à chacune, à chacun. Que Dieu vous bénisse pendant ces moments de culte et de communion avec notre Dieu. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Matthieu 5, verset 13. Le sel représente l'alliance du peuple juif avec Dieu. Sous la loi de Moïse, il fallait saler la viande avant de l'utiliser comme offrande. Lévitique 2, verset 13. Jésus compare ses disciples au sel. Il assaisonne les aliments, empêche la corruption, fait ressortir le goût des choses. Nous sommes donc symboliquement appelés à donner du goût à la terre, à ajouter de la saveur à la société humaine et à en freiner la décomposition morale et à stimuler l'envie d'autrui de posséder la justice. Quelle responsabilité ! Est-ce que nos actions quotidiennes démontrent que nous agissions pas par nous-mêmes, mais au travers de celui que nous voulons suivre et honorer. Si nous ne le laissons pas, les hommes fouleront aux pieds notre témoignage. Soyons le sel de la terre, donnons soif à nos semblables d'en avoir plus sur celui qui est notre raison de vivre et notre espérance. Je prie. Notre Dieu, notre Père, nous venons ensemble te rendre toute la louange de nos cœurs reconnaissants. Remplis-nous de toi pour que notre vie quotidienne ait suffisamment de goût pour faire envie autour de nous. En ton Fils bien-aimé, amen. Nous laissons la parole à la louange.
À lui seul la gloire, le ciel, le sel. dont tu viens de faire mention, eh bien, il nous vient de Jésus. Alors, à lui la gloire.
Pour les deux.
Parle-nous, fais grandir la foi et que nos yeux voient ton amour sublime. C'est dans cette vision de l'amour de Dieu que nous pourrons dire les paroles du prochain chant, parce que c'est un chant très engagé, avec des paroles pas faciles à chanter. Le chant suivant, il dit « Oui, prends tout, Seigneur, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. » Est-ce que Dieu voudrait nous dépouiller? Est-ce que Dieu a envie de nous enlever tous nos biens? Je ne crois pas. Il veut qu'on fasse des efforts pour mériter le salut, des sacrifices pour arriver à Dieu, et puis plus on fait de sacrifices, plus on y arrive. Eh bien non, certainement pas. Ce serait un Dieu inatteignable, on ne pourrait jamais l'atteindre. Mais lui, c'est lui qui a tout donné. Il n'est pas dans cette logique. La grâce de Dieu, elle dépend que de notre foi et pas de nos bonnes actions qui sont comptées. Donc pour moi, les paroles de ce chant, c'est une réponse à l'invitation du Christ à le suivre, à le mettre à la toute première place. Son joug est léger, dit sa parole. Donc ne craignons pas. Son but est de nous rencontrer, d'avoir une relation avec lui. Souvenons-nous que l'amour de Dieu, il est grand comme ça. Il est grand comme ça. Puis il est grand haut comme ça. Et c'est pourquoi on veut lui remettre notre cœur et notre vie. Parce qu'on veut se détacher de nos soucis quotidien pour nous remettre pleinement en lui. Entre tes mains, j'abandonne.
Alors, bonjour les enfants. Oh, mais je vois qu'il y en a plusieurs qui sont encore au fond. Il faut vous approcher parce que j'aurai besoin de votre avis. Alors, il faut venir devant, sinon vous ne pourrez pas répondre depuis là derrière. Voilà. Noam, tu veux venir donner ton avis aussi? Non. Bon. Alors, on va vous faire un petit sketch tous les deux. Écoutez bien, parce qu'ensuite, on va vous demander ce que vous en pensez.
Hé, salut Marc. Comment tu vas?
Oh, ça va, je suis un peu fatiguée. Je viens tout juste de faire un déménagement.
Tu as aidé des amis?
Ah oh, bah oui, c'est ça. J'ai des amis qui avaient besoin d'aide, donc je suis allée les aider. Oh, puis tu sais, je suis tellement serviable. La semaine passée, j'ai été faire du babysitting. La semaine d'avant, je suis venue aider à l'église.
Ah oui, quel esprit de service.
Ah ça, tu peux le dire. C'est clair que moi, je suis toujours prêt à faire le bien.
Mmh. Et tu es toujours prêt à t'en vanter aussi, non? On dirait que tu fais le bien juste pour montrer à tout le monde que tu es une bonne personne et pour te vanter.
Mais pas du tout.
Alors cite-moi un seul exemple où tu as fait du bien juste par amour et pour aider.
Ah ben tiens, l'autre jour j'ai tondu la pelouse dans le jardin.
Ouais, mais parce que tu savais que tes parents te donneraient un peu d'argent de poche.
Ah ouais, bon... C'est vrai. Mais rappelle-toi, dimanche dernier, j'ai justement donné tout mon argent de poche à l'église.
Oui, mais tu m'as dit après que tu l'avais fait pour impressionner ton amoureuse Léa, pour qu'elle voie que tu es très généreux.
Ah ouais, t'as peut-être raison. Je pense que je fais souvent le bien pour de mauvaises raisons. Alors les enfants, qu'est-ce que vous pensez de mon attitude ? Hein? Qu'est-ce que vous pensez de moi?
Une attitude qui n'est pas bien.
Qui n'est pas bien? Ouais, elle n'est pas bien. Et pourquoi elle n'est pas bien?
Parce que tu as fait des choses gentilles, mais c'était pour des mauvaises raisons.
Ah, ben bravo Lily, elle a tout résumé. J'ai fait des choses gentilles, mais pour les mauvaises raisons. Hein? Il y a quelqu'un d'autre qui veut encore dire quelque chose? Et par rapport à ce que Jacques vous a dit au début, on doit être le sel de la terre. Le sel, quand on le met dans l'aliment, on ne le voit plus. Il donne du goût, mais on ne le voit pas. Tandis que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de donner du goût autour de moi, hein, de faire des belles choses, mais je voulais que ça se voie et que ça se sache. Alors l'idéal, si vous êtes le sel de la terre, c'est que ça ne se voit pas. Vous faites du bien, mais... Vous le faites quelque part en cachette. Bien sûr que les autres s'en apercevront, mais ils ne doivent pas s'en apercevoir parce que vous, vous leur dites « T'as vu tout ce que j'ai fait hein? ?» On le fait dans le secret. Et c'est ça, le verset que je vais vous laisser. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. » Pas pour avoir une récompense de la part des hommes. Pas toujours facile, hein? Quand on fait quelque chose, on aime bien qu'on nous dise bravo quand même. Hein? Eh bien, voilà. D'abord, on doit le faire pour le Seigneur. Voilà, on va encore juste prier pour vos moniteurs et pour vous, et après, vous pourrez descendre à l'école du dimanche. Seigneur, merci parce que tu nous donnes tous ces enfants aujourd'hui. Tu vois qu'ils sont nombreux. Nous voulons te remettre particulièrement les moniteurs et le message qu'ils vont donner. Et nous te demandons de bénir tous ces enfants. Amen.
Amen.
Allez, bonne école du dimanche.
La coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ, puisqu'il y a un seul pain? Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. 1 Corinthiens 10, versets 16-17. Le Seigneur est mort sur la croix pour expier nos péchés, mes péchés, et nous a donné la possibilité, en acceptant ce sacrifice, de devenir enfants de Dieu et d'avoir la certitude de posséder la vie éternelle avec lui. Le Seigneur connaît nos cœurs oublieux. Voilà pourquoi il nous a laissé le souvenir de son sacrifice à la croix, afin que nous nous en rappelions régulièrement. En prenant ces signes, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Chaque chrétien, enfant de Dieu, ayant accepté Jésus pour son sauveur, est invité à prendre part à ces signes. Je lirai encore 1 Corinthiens 11, verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange le pain et boive de la coupe. Je prierai. Oui, Dieu est Père, quelle chose merveilleuse que tu as fait pour nous en envoyant ton Fils, le Seigneur Jésus. Il est venu sur cette terre, il a été maltraité, il est allé jusqu'à la croix, il est mort pour mes péchés, pour nos péchés, mais il est ressuscité et maintenant il est à la droite de Dieu. Nous voulons te louer, te dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait avec ces signes que tu nous as laissés ici-bas. Merci Seigneur. Amen.
bonjour à chacun. Dans la préparation de ce culte, on m'a demandé plusieurs fois quel était le titre de la prédication. Pour des questions de programme, et j'ai tout de suite répondu que je n'allais pas faire une prédication, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas un prédicateur, je n'ai pas suivi de faculté de théologie ou d'un institut d'études bibliques. Donc, ce matin, ça sera plus un partage autour d'un thème qu'une véritable prédication. Quel est le thème ? J'ai essayé de résumer ça dans la phrase que vous voyez projetée. C'est encore un peu crypté, je pense, mais peut-être au fur et à mesure de la présentation, vous allez y voir un peu plus clair, mais j'espère que j'y verrai plus clairement aussi. Le point de départ, c'est de voir et de constater qu'on vit dans un monde qui est hostile et complexe, et qui, en conséquence, provoque, en tout cas chez moi, un sentiment de malaise, voire de découragement, et ensuite, il s'agira de voir qu'est-ce qu'on peut faire de ce constat de prime abord assez négatif et d'avoir quelques perspectives un peu plus stimulantes. Le point de départ de ma réflexion, ça a été le culte de Pâques donné par Philippe Poncheau, dans lequel il nous a répété que Dieu accueille tout le monde, avec trois thèmes, trois manières de voir cet accueil, un accueil qui est inconditionnel, au-delà de toute forme de légalisme et de morale, essayer de ne pas se fier à la première impression et pouvoir accueillir également les profils atypiques. C'est un véritable défi parce que en fait, ces trois points se rejoignent les uns aux autres. Et effectivement, ce n'est pas forcément naturel que d'aller dans ce sens. À titre d'exemple, notamment lorsqu'on fait des recrutements dans le monde professionnel, on nous dit souvent, mais il faut vous fier à votre première impression, les 20 premières secondes, les 20 premières paroles, les 20 premiers gestes, les 20 je ne sais plus quoi, parce que ça faisait 100 la somme, mais je ne me souviens plus des autres. Et voilà. Donc c'est un petit peu un véritable défi que de se mettre dans cette ligne-là. Cela étant, je me suis dit, ça c'est comment nous, on perçoit les autres, mais comment est-ce que les autres nous perçoivent, nous ? Et en tout cas, en tant que communauté. Ici, on est entre nous, on se connaît, mais comment est-ce qu'on est vu en dehors ? Comment est-ce que les évangéliques, j'ai mis ça avec des guillemets, parce qu'il faudrait même en mettre 3 ou 4 des guillemets, comment est-ce qu'on est vu ? Est-ce qu'on est bien vu ou mal vu à l'extérieur ? Alors, il y a 3 points qui me paraissaient importants, que je vais un petit peu développer. Tout d'abord, c'est une cartographie qui est peu lisible. Et vous allez comprendre pourquoi. Avec une absence de point de référence et puis une tendance souvent à une sorte d'amalgame ou de simplification des choses. J'espère que vous n'arrivez pas à lire ce schéma parce que c'était le but. C'est le schéma historique de l'église réformée néerlandaise. J'ai pris un exemple en dehors de la Suisse, comme ça on ne fâche personne. Et je n'ai pas mis de commentaire à droite du schéma, mais j'aurais pu mettre une chatte qui aurait perdu ses petits, parce qu'effectivement, ça va du 15e siècle, du 16e siècle jusqu'à nos jours, et on voit une multiplication des branches et des croisements, en sachant que tout ce qui est des dates qui sont dans des rectangles, ce sont des divisions et les ovales, ce sont des fusions. Et je ne parle pas du monde bancaire. Donc, effectivement, quand je dis une cartographie difficile et des points de référence qui sont peu clairs, ben c'est ça. On a effectivement une difficulté importante à voir un petit peu la géographie des mouvements. C'est une première difficulté. Ensuite, je parlais de simplification et d'amalgame. Alors, l'idée, c'est de prendre un petit peu, sans faire de polémique, un petit peu l'exemple de ce qui se passe dans les médias. Par exemple, j'ai pris un exemple fictif. J'ai imaginé des petits reportages sur une grande entreprise suisse. J'ai pris Nestlé comme exemple. Je n'ai pas d'action chez eux. Et puis, je fais deux exemples de reportages possibles. Alors, c'est écrit petit, je vais vous le lire. Ça serait plutôt un reportage qui donne une vision très favorable, très bienveillante de l'entreprise Nestlé. Premier reportage, Nestlé, une aventure suisse qui a conquis le monde. Nestlé, l'innovation comme objectif permanent. Et troisième titre de reportage fictif, la multinationale à l'ambition planétaire. Alors évidemment, quand on voit ça, on se dit finalement, ces reportages, ils sont relativement bienveillants envers l'entreprise. Par contre, et là je vous donne trois autres titres tout autant fictifs, Nestlé, Léon Poudre, l'Afrique te dit merci. Nestlé, procédé de dépollution au charbon au secours. Ça fait référence, vous l'avez compris, aux récentes divulgations du fait que l'eau de source, qui est censée être pure, passait dans du charbon avant d'être mise en bouteille. Et puis, dernier titre, fictif toujours, capsule Nespresso, un peu d'aluminium dans votre café. Donc, quand on voit ces titres, on se dit, finalement, là, la vision, elle est quand même assez critique. Et si j'étais un communicant de chez Nestlé, je me dirais, là, je vais peut-être passer un mauvais quart d'heure. Si maintenant, on transpose ça à notre monde à nous, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, ça nous donne que, à mon avis, mais ça, c'est mon avis à moi, les médias, en général, ne nous ménagent pas trop. Et là, il s'agit d'exemples que je vais vous montrer d'une récente émission de radio sur une chaîne nationale suisse où il y avait des petits reportages comme ça sur le monde évangélique. Il y en avait cinq et j'ai retenu trois titres. C'est volontairement écrit petit, je vais les reprendre. Le premier, évangélique, Christ, je te kiffe. Deuxième, évangélique, sous emprise. Et le troisième, évangélique, LGBT, prière de s'abstenir. Alors évidemment, quand on voit les titres, on se dit, effectivement, on a d'emblée une vision qui est quand même assez critique, assez sévère. Et c'est un véritable constat, et en partie, il peut s'expliquer. Pourquoi est-ce qu'on a ce genre de réflexion autour des mouvements évangéliques? Je vois plusieurs pistes. La première, c'est que, et je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de mise en perspective, c'est-à-dire qu'en général, quand il y a ce genre de reportage, il n'y a pas de mise en perspective historique ou sociale, historique parce que, on l'a vu dans le schéma tout à l'heure, les choses ont une place dans l'histoire, sociale parce qu'on ne s'intéresse pas vraiment à savoir qui compose ces mouvements, comment ils sont composés, parce que sociologiquement parlant, il y a des traits communs. La géographie aussi, elle est importante, puisqu'on sait qu'il y a des régions qui ont été propices à l'installation de mouvements et de communautés évangéliques, alors que d'autres, c'est plutôt désertique. Et tout ça, ça amène à une forme de simplification. On simplifie les choses, on fait même des amalgames, et quand on simplifie, c'est comme quand on calcule une moyenne. On se retrouve des fois difficilement dans cette moyenne. Si je faisais la moyenne ici de la taille, je ne sais pas, on serait peut-être à 1m70 et quelques. Paul Robert, il aurait de la peine à s'y retrouver parce que lui, il est 15 cm au-dessus. Donc il va se dire, moi, je ne ressemble pas tellement à cette moyenne-là. Donc la simplification, des fois, elle est dommageable. Ensuite, le problème que je vois, c'est que dans ces reportages, dans les médias, on fait beaucoup parler des gens. On est allé chercher des gens, on les a fait parler. Et c'est des gens qui ont donné, c'est juste, leur avis personnel, mais on a l'impression que leur avis personnel engage quelque part l'ensemble de la communauté. Et celui dit ci, celui dit ça, et c'est comme si tout le monde disait ci ou tout le monde pensait ça. Ça, c'est aussi quelque chose que l'on remarque. Ensuite, dans les personnes qu'on va interroger, qu'on va mettre sur le devant, à mon sens, il y a souvent la même typologie d'interlocuteurs. Il y a tout d'abord celui que j'appelle l'exalté. C'est, si vous voulez, la conversion sur le chemin de Damas, c'est la même chose, mais x10. C'est le choc, avec tous les airbags qui s'ouvrent, et qui explique tout ce qu'il a laissé de côté avant, tout ce qui était mal. C'est en gros l'alcool, la cigarette, les discothèques, les relations faciles pour tout ce qui est bien. C'est l'exalté. Alors lui, il survole. Le deuxième, souvent, et ce n'est pas pour enlever de la valeur à ce qu'il dit, mais c'est ce que j'appelle le rescapé. On a vu avant dans les titres, sous-emprise. Donc c'est quelqu'un qui dit tout ce qui s'est mal passé dans une communauté qu'il fréquentait avant pour dire comment ça s'est mieux passé en la quittant. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça n'est de loin pas la règle. On n'est pas tous des rescapés ici. Et puis dans les interlocuteurs, mais cette fois-ci c'est dans l'autre sens, il manque souvent la vision académique, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de mettre un petit peu de sens autour de cette géographie compliquée des mouvements. C'est-à-dire qu'il va expliquer que telle orientation à telle source historique, elle s'explique d'une manière ou d'une autre. Alors ça existe, il y a des très bons sociologues des religions, un d'ailleurs qui est dans, ici, qui habite ici à Mérin, qui est souvent présent dans les médias, qui dit des choses très mesurées, très intelligentes sur un petit peu cette nébuleuse. Et puis, autre chose aussi qu'on voit souvent dans les exemples des médias, c'est qu'on aborde toujours les mêmes thèmes. J'ai pris trois exemples ici, il pourrait y en avoir d'autres. La première, c'est la forme des célébrations. Où on nous explique, on ne sait pas très bien si on va au concert ou si on va à l'église. Parce qu'on va. Alors c'est très bien, enfin, je veux dire, moi, je n'ai pas de difficulté par rapport à tel ou tel type de louange ou de musique, mais on a des fois l'impression qu'on réduit les choses au fait d'aller à un concert. C'est souvent très bruyant. La forme des célébrations, donc je l'ai dit, la musique, mais également le fait des fois qu'on organise des guérisons, des séances de guérison. Alors ça plaît beaucoup dans les reportages, dans ce qu'on peut dire. Et également le fait des fois qu'on a des célébrations où en gros on ne sait pas tellement quelle langue on parle parce que ça, il y a des langues qui s'inventent à mesure comme ça. Et ça, on met en avant tellement, on met ça comme très caractéristique. Un deuxième point qui est un deuxième thème qui est souvent toujours repris, c'est des questions qui ont trait, je le dis comme ça, je l'ai résumé comme ça, à la morale sexuelle. C'est-à-dire, on va souvent poser des questions. Mais alors vous pensez quoi de l'avortement? Vous pensez quoi des relations avant ou après le mariage? Vous pensez quoi des couples de même genre, etc. On se focalise énormément là-dessus parce que, évidemment, on est dans un monde où ces choses sont devenues banal, et je ne mets pas de jugement là-derrière, et c'est pour montrer à quel point on est en décalage. Troisième point, la politique, alors ça c'est clair que c'est moins présent en Suisse, mais quand même, souvent, qui dit évangélique dit plutôt une droite assez marquée, sans parler des États-Unis, où à peu près église évangélique égale soutien à Trump, voire le Brésil, où des églises disent, eh bien, c'est Jésus-Christ venu une fois, la deuxième fois, ça s'appelait Bolsonaro. Donc, tout ça, pour moi, en tout cas, ça génère un certain malaise, un certain inconfort. Pourquoi? Parce que moi, je ne ressemble pas à ça. Je veux dire, moi, je ne ressemble pas à ça. Quand je viens ici, je ne viens pas à un concert. Il y a une très bonne louange, et je remercie, parce que les chants, d'ailleurs, on ne s'est pas vraiment concerté, mais les chants, je trouve qu'ils étaient bien dans le thème. Moi, je ne viens pas à un concert, j'ai rarement assisté à des guérisons. Il ne me semble pas que des choses qui ont trait aux questions de sexualité au sens large soient des choses qui nous omnubilent et qui se focalisent vraiment dans nos célébrations. Et de politique, on n'en parle pratiquement pas. Et d'ailleurs, sur ceux qui peuvent voter, la moitié ici n'iront pas voter. Donc, c'est pour ça que je ressens un malaise. C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on passe plus de temps à dire qui on n'est pas que qui on est. Et ça, c'est vraiment une difficulté. Alors, parce qu'évidemment, il faut essayer d'aller un peu plus loin, parce que sinon, déjà qu'il ne fait pas beau, en plus, le dimanche, on va le plomber un petit peu. Comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Enfin, sortir, c'est un grand mot. Comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir d'autres pistes? Et c'est là un petit peu l'essentiel de ce que je vais vous dire ce matin. Moi, j'en vois trois. La clairvoyance, la sagesse au travers de l'exemple de Christ et l'importance de la communauté. Clairvoyance, je ne vais pas trop m'arrêter. C'est un rappel. C'est l'idée de se dire qu'on doit comprendre, accepter que le monde dans lequel on vit n'est pas un monde forcément très bienveillant et qui nous est très favorable. On est dans un monde qui est polarisé, concurrentiel, globalisé, où la rationalité économique est celle qui décide à peu près tout, et dans lequel la foi ou le spirituel sont gentiment mis de côté, voire même qualifiés comme un peu suspects. Et ce n'est plus un monde, comme on l'a peut-être connu à 30, 40, 50 ans, où le maître d'école, le médecin, le pasteur et le policier étaient des figures centrales de l'autorité ou de la référence. Ça, c'est fini. Maintenant, on parle d'influenceurs et d'autres choses. Donc, le monde a changé. On n'est plus à se mettre en rond, se tenant la main et à chanter. C'est sympa, mais ce n'est pas comme ça. À l'extérieur, ce n'est pas comme ça. Donc, c'est juste un rappel, la clairvoyance. Soyons clairs sur ce qu'on voit et dans le monde dans lequel on vit. Le deuxième point, c'est la sagesse au travers de l'exemple de Christ. Parce que lorsqu'on considère le ministère de Christ, les 3 ans de ministère qu'il a eu, finalement, le monde dans lequel il évoluait à l'époque n'était pas forcément beaucoup plus bienveillant que maintenant. Certes, il était beaucoup moins, il ressemblait pas du tout au monde dans lequel on se trouve aujourd'hui, mais il avait quand même une certaine hostilité à laquelle il devait faire face. Alors, les Romains qui occupaient le territoire l'ont à peu près laissé en paix, si ce n'est qu'à la fin, ils n'ont pas levé le petit doigt lorsqu'il s'agissait de le condamner à mort. Mais le clergé, si on peut dire ça comme ça, l'establishment religieux de l'époque, a été particulièrement hostile jusqu'à construire un complot pour le faire arrêter, je parle de Jésus, et le condamner à mort. Donc, dans ce contexte, moi j'ai retenu 4 manières avec lesquelles le Christ a essayé de répondre un petit peu à cet environnement. Et la première, c'est expliquer et enseigner sans relâche. Alors, pour chacun des 4 points, j'ai pris à chaque fois une œuvre d'art, comme ça, si jamais le message ne vous a pas forcément intéressé, vous aurez quand même fait un peu d'histoire de l'art, ce n'est pas perdu. Donc ici, on a une peinture relativement récente, 2010, avec des couleurs assez équilibrées, assez pastelles comme ça. Le paysage, il fait plus Toscane que Palestine, mais ça, ce n'est pas trop grave. Et on y voit, au sommet de la colline, le Christ qui enseigne et qui explique, ça fait référence au sermon sur la montagne. Et donc, ça montre que c'est l'une des manières de faire, c'est d'expliquer, enseigner sans relâche pour voir, pour montrer qui nous sommes et en quoi nous croyons. À ce propos, nous allons lire comme illustration un petit passage dans Luc au chapitre 24.
Alors Jésus leur dit, « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes.
Donc là, vous avez compris, ça fait référence aux disciples d'Emmaüs qui rencontre le Christ en chemin un peu par hasard, comme ça, s'engage une conversation, et puis Jésus va leur expliquer un petit peu toute la trajectoire depuis l'Ancien Testament jusqu'aux événements récents de Jérusalem, et je trouvais que ce texte était une bonne illustration de cette idée d'expliquer et d'enseigner sans relâche. Deuxième manière de faire, potentielle manière de faire, peut-être vous en trouverez d'autres, c'est l'idée de confronter, de démasquer. Donc ici, c'est une peinture du XVIe siècle, artiste flamand, qui fait référence au texte que nous écoutons maintenant dans Jean chapitre 8.
Mais Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tôt le lendemain matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à leur donner son enseignement. Les maîtres de la loi et les pharisiens lui amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus, « Maître, Cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu ? Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et leur dit : Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent, l'un après l'autre, les plus âgés d'abord. Jésus resta seul avec la femme, qui se tenait encore devant lui. Alors il se redressa et lui dit : Eh bien, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ? Personne, maître, répondit-elle. Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus.
Alors, bon, dans cette situation, j'ai mis confronté, démasqué, parce qu'on lui tend, un piège. On tend un piège au Christ, on lui amène cette personne au temple en disant, ben voilà, on a été prise en flagrant délit d'adultère. Au passage, une remarque, il y a une première escroquerie, c'est que si vous allez lire le texte de référence sur le fait de condamner à mort des personnes qui sont prises en adultère, on condamne tout le monde. Là, il n'y a que madame. Et ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que, et je l'ai entendu souvent dans des explications relatives à ce texte, je suis assez convaincu par ça, c'est de dire que finalement Jésus, il est assez gêné de cette situation, parce qu'on lui amène une femme à moitié dénudée comme ça au temple, qui doit être dans un état épouvantable et qui est menacée de mort. Ça doit être une situation qui est assez gênante. Et c'est souvent comme ça qu'on explique le fait qu'il se tient plus bas et qu'il fait des signes un peu comme ça sur le sol. Donc ici, il n'est plus question d'expliquer ou d'enseigner parce qu'on est dans une situation qui est assez dégradée, où les dés sont un peu pipés, hein, je l'ai dit. Et donc, il s'agit plutôt de retourner la situation dans l'autre sens pour confronter les personnes qui amènent cette pauvre dame à des réalités un peu différentes et de dire, mais finalement, ok, faites comme vous voulez, mais celui qui lance la première pierre, bah, c'est celui qui n'a jamais rien fait. Et ça, c'est une manière de répondre qui est assez intéressante, et on voit d'ailleurs dans le texte, et c'est la deuxième remarque par rapport au contexte de cet épisode, c'est qui est-ce qui part en premier ? Les plus âgés, parce qu'ils se sont peut-être rendus compte, ils ont réfléchi un petit peu, qu'ils avaient quand même plus de casseroles derrière que les autres. Donc, ça, c'est une manière aussi de répondre, c'est de démasquer, de confronter quand on peut le faire. Et là, on a cet exemple qui va dans ce sens-là. Troisième exemple, qui n'est pas forcément celui que j'affectionne le plus, c'est la colère. Donc là, vous voyez une peinture de Tiepolo, 1550, peintre vénitien. Effectivement, la scène, elle fait plus Renaissance que Jérusalem. Et pour comprendre un petit peu, on va lire Jean 2.
La fête juive de la Pâque était proche, et Jésus alla donc à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous hors du temple avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs en renversant leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez tout cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. »
Voilà. Donc là, clairement, on a un des cas où Jésus-Christ s'est mis en colère et a renversé les tables en chassant ses commerçants, ses vendeurs, ses banquiers du temple. Bon, l'idée, ce n'est pas de vous dire qu'il faut devenir des spécialistes du dommage à la propriété. C'est l'idée de la colère, là, c'est le fait de dire que quand trop, c'est trop, on doit pouvoir être capable de dire non. qu'on n'est pas d'accord. Là, ça s'est manifesté de cette manière-là. Mais on peut aussi, parce que des fois, c'est vrai qu'on entend des choses à notre encontre qui sont des choses parfaitement calomnieuses, on a le droit de dire non. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu retenir là. Après, vous avez bien vu le titre « Sagesse au travers de l'exemple ». Donc, la sagesse, c'est de savoir quelle est la réaction la plus appropriée. Est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est une autre? Dernier exemple que je prends, c'est le silence. Et on va lire Matthieu 27.
Jésus comparut devant le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Tu le dis ». Ensuite, lorsque les chefs des prêtres et les anciens l'accusèrent, il ne répondit rien. Pilate lui dit alors « N'entends-tu pas toutes les accusations qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était profondément étonné.
Là, vous voyez une peinture assez intéressante, aussi un auteur flamand, 16e siècle. Regardez un peu les têtes des gens, c'est plus que des caricatures, ils ont des tronches pas possibles. Et au milieu, vous avez Jésus qui se tait et a les yeux fermés, dans un moment où on dit les pires choses sur lui et où il est à quelques minutes de son jugement, si on veut bien. Et vous avez sur la droite Pilate qui est prêt à se laver les mains avec le serviteur qui lui amène la cruche avec de l'eau. Se taire. Des fois, c'est important de se taire, c'est-à-dire que c'est une sorte de lâcher prise. C'est l'idée que les choses ne sont plus dans notre sphère d'influence et, comme c'est le cas dans cet exemple, elles sont dans les mains de Dieu et on laisse aller les choses. Et on a meilleur temps de ne rien dire que de dire quelque chose qui ne va pas. Voilà, quatre petits exemples de comment est-ce qu'on peut nous comporter en termes d'individus. Mais tout à l'heure, j'ai dit que dans les réponses possibles au malaise, il y avait également la communauté. Alors la communauté, effectivement, c'est un point central. La communauté, c'est nous. Et la communauté, elle a une importance primordiale parce qu'elle fait le lien entre justement l'individu et la structure. Je prends comme point d'illustration pour commencer la cérémonie des 2024 des rameaux qui a eu lieu il y a quelques semaines et que j'ai trouvé être une vraie réussite parce qu'on avait côte à côte trois communautés différentes qui se sont estimées, qui se sont respectées et que nous avons estimées et que nous avons respectées aussi. Et on a été appréciés comme nous avons apprécié les autres. Et c'est important de le dire. Alors, individu et communauté, tout d'abord, la communauté, c'est qui? À mon avis, c'est ceux qui la composent, toujours, plus un. Et on lit dans Matthieu 18.
Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux.
C'est Jésus qui parle. Donc la communauté, c'est tout le monde plus un. Et le plus un, c'est pas n'importe qui. Et de savoir qu'il est quelque part là, ça nous donne une certaine force, mais aussi le sentiment important que nous ne sommes pas seuls. Deuxième point, la communion fraternelle. Et on lit un bref passage dans Actes 2.
Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur.
Alors, c'est ce que j'ai appelé, on passe, donc à cette époque, vous avez compris, il y avait cette église primitive, on mettait tout en commun, on vendait tout, une sorte de collectivisme, le mot il est un peu provocateur, mais c'est à peu près ça. On est passé du collectivisme des biens, de ce qui se faisait à l'époque, et aujourd'hui, ça, on ne le fait plus, on ne met plus nos biens en commun, en tout cas partiellement. Par contre, on met en commun des biens liés à l'esprit, c'est-à-dire que c'est le collectivisme des biens, on passe de celui des biens à celui de l'esprit. Dans notre communauté, dans les communautés, nous avons la somme de nos dons, de nos aptitudes, de nos rôles, de nos forces, mais aussi de nos faiblesses. Et là-dedans, c'est ce que je mets dans le titre de communion fraternelle. Et ça fait le lien entre justement l'individu et la communauté. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important, l'individu et la communauté. Ensuite, nous avons le respect de la communauté. La communauté, elle doit être respectée. On doit respecter cette communauté. Pourquoi ? Parce que sinon, on entre dans des dérives où on commence à parler au nom d'eux et on engage quelque part, sans le vouloir ou en le voulant, la communauté dans une voie qui n'est peut-être pas la voie la plus opportune. Alors, l'Église est-elle un club de football ? Moi, je pense que oui. Et on va le voir dans 1 Corinthiens 12.
C'est ainsi que, dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes et troisièmement des enseignants. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui peuvent guérir les malades, ceux qui ont le don d'aider ou de diriger les autres, ou encore de parler en des langues inconnues. Tous ne sont pas apôtres ou prophètes ou enseignants. Tous n'ont pas le don d'accomplir des miracles ou de guérir les malades ou de parler en des langues inconnues ou d'interpréter ces langues.
Alors vous comprenez mieux pourquoi je parle de club de football, parce que dans un club de football, il y a des rôles qui sont très très bien définis, de celui qui le dirige à celui qui prend sa place dans les gradins pour regarder simplement son équipe évoluer. Et il y a des rôles qui sont donc définis, des responsabilités qui sont définies. Et on doit respecter ses rôles et ses responsabilités, ce qui engendre une certaine harmonie. Et d'ailleurs, pour revenir à l'exemple du football, sans faire de polémique, du côté du Valais, quand vous avez quelqu'un qui s'occupe de tout dans un club, en général, ça ne marche pas très bien, ou plus très bien. Et puis, puisque chacun a un rôle, chacun a une position, quelle qu'elle soit, chacun est à la meilleure place. Et c'est important de respecter ça pour que justement il y ait une harmonie qui se dégage. Dernier point s'agissant de la communauté. Il s'agit de. Moi je pense qu'il faut remercier la communauté pour ce qu'elle nous donne. La communauté, on l'a vu, on voit comment elle est composée, on voit comment elle se structure. Et bien elle apporte quelque chose à chacun de nous. Et je pense que c'est important qu'on le reconnaisse et qu'on puisse, en exprimer une certaine gratitude. À cet égard, je me permets de donner un exemple, cette fois-ci beaucoup plus personnel. Il y a 4 ans, notre fille a été très malade pendant 4 mois d'hôpital et j'avais 2 craintes. La première, c'est qu'elle y reste. La deuxième, c'est qu'on soit seul dans cette épreuve. Elle n'y est pas restée et on n'a jamais été seul. Parce que vous avez été là, d'une manière ou d'une autre. Et je profite, puisque je suis là, pour vous remercier. Parce que ça a été quelque chose d'extrêmement important. Et quelque part, ça me permet aussi de peut-être tourner un peu la page. Donc oui, il faut qu'on soit capable de remercier la communauté pour ce qu'elle nous apporte. Et en conclusion, parce que je m'arrête là, je termine. On ne peut pas changer le monde dans lequel on vit. Il est comme ça. Certainement qu'on peut avoir quelques influences, mais peu. Mais notre propre comportement et notre vie en communauté sont quand même des contrepoints intéressants. Et si on devait rester sur quelque chose par rapport au blabla que je vous ai fait, essayons de rester sur cette conclusion.
transforme-nous pour ton royaume. Devant toi à genoux, nous te chantons un psaume. Change nos vies et nos envies. Rends nos cœurs humbles, nos bonheurs saints. Et change mon cœur gravé de pierre contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi. Sacre-moi ton œuvre, Père. Transforme-nous pour ton royaume. Devant toi à genoux, nous te chantons un psaume. Change nos vies.
On souhaite vous proposer maintenant un petit temps de prière libre. On ne va pas passer avec les micros, mais sentez-vous libre de vous exprimer, d'exprimer votre reconnaissance à Dieu pendant ce moment de culte.
Merci beaucoup. J'invite encore Sylvain à s'approcher pour s'il avait une information par rapport à l'enterrement de demain.
Oui, donc demain a lieu le service d'adieu pour Betty Strelly. Vous avez reçu l'actu Mérin. Si vous ne le recevez pas, vous pouvez toujours me demander. Juste une petite question pratique. Bon, d'abord, c'est Nicolas Genequin qui assurera le service, qui a lieu demain à 15h ici. Alors, pour les questions pratiques, on aurait besoin de diviser les chaises de la salle en deux rangées au lieu de trois. Donc, si deux, trois personnes peuvent nous aider à l'issue du culte à reconfigurer les chaises, ce sera bien. On va sortir des tables pour le repas communautaire tout à l'heure, c'est ça? Donc, après, on va en laisser deux pour l'apéro qui aura lieu après le service funèbre. Et puis, il faudrait qu'il y ait une personne qui puisse rester au moins jusqu'à vers 6h, 6h30 demain, parce que moi, j'ouvrirai la salle, mais je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin, jusqu'à 6h. Voilà. Merci.
Merci de vous lever, si vous le pouvez, pour la bénédiction. Bénédiction que j'emprunte à Philippiens 4, chapitre 4, du verset 4 au verset 7. Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur, je le répète, soyez joyeux. Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous, le Seigneur viendra bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Bonne semaine.